Ready?
Let's go!
Touchdown!
Ready, set, BPM, BPM, BPM!
Le Focus NFL.
Avec notre expert Mathieu Proulx qui est là. Comment ça va, Matt?
Ça va bien, vous autres?
Oh, super bien, merci. Matt, on rentre dans le sujet tout de suite, là. Yo. Hier, l'écart était à 3 entre les Commanders, qui étaient la surprise de l'année passée dans la NFL. Les Packers ont fait l'acquisition de Micah Parsons. Maintenant, en date de ce matin, sont les favoris pour sortir de la Nationale. Après 2 semaines, on avait-tu raison, toi et moi, des envoyés au Super Bowl?
Ouais, écoute, présentement, je mettrais de l'argent sur les Packers si je mettais de l'argent sur le football, parce que je fais pas ça, mais je me suis trop fait surprendre souvent. Mais oui, les Packers sont pour vrai, là, sont très, très solides. Jordan Love joue très bien, pousse pas la note, force rien, très conscient de l'équipe qui est autour de lui, joue bien dans le système. L'attaque a bien fonctionné malgré le fait qu'il nous manquait 2 joueurs partants sur la ligne offensive, malgré le fait qu'on a perdu un de nos meilleurs receveurs en Jaden Reed tôt dans le match. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'unité défensive menée par Jeff Hafley. Écoute, limiter Jaden Daniels à 17 verges au sol dans un match, puis le limiter à 200 verges, c'est un exploit. C'est une attaque qui est dynamique. Puis la défense des Packers, hier, je décrivais le match, j'y vois aucune faiblesse. Mais aucune faiblesse. Et ça, c'est dangereux pour les autres formations. On est capable d'arrêter le sol. On est capable d'arrêter les carrières mobiles, ce qui est une menace dans la NFL d'aujourd'hui. Puis on est très agressif dans la tertiaire. Vraiment, c'est une équipe complète, les Packers de Green Bay.
Ouais, et hier, c'est Micah Parsons, après le match, je pense, en entrevue, quand les fans chantaient « Thank you, Jerry
».
Qui faisait bon. Des « oui » de la tête. Il a l'air très, très heureux à Green Bay. Et pour les fans des Packers qui nous écoutent, là, je pense qu'enfin, vous pouvez voir de l'espoir devant vous. Là. Après les controverses qu'on a avec Aaron Rodgers, peut-être des débuts un peu plus lents, Jordan Love, tout le reste, là, finalement, ce sont des bonnes nouvelles.
Je vais te poser une question, Mathieu. Jordan Love, quand il a été repêché, il a passé 3 années, je crois, à être celui qui regardait Aaron Rodgers à Green Bay. Est-ce que tu penses que cette expérience-là en est pour ses performances depuis qu'il est le partant à Green Bay?
Très certainement. J'en suis convaincu même. Puis on a parlé hier pendant la diffusion du match. C'est rare qu'on ait ce luxe-là parce que c'est une business de gagner aujourd'hui. Puis quand on repêche surtout des corps en première ronde, maintenant, on les lance dans le feu de l'action en espérant qu'il soit le prochain Jaden Daniels. Mais Jaden Daniels, quand on regarde l'ensemble de ce qui s'est passé avec les carrières de la NFL là, dans les dernières années sur la première ronde, c'est peu lui l'anomalie. Il y en a peu de carrières qui rentrent et qui, dès leur première année, connaissent du succès. Ils sont jeunes, ils n'ont pas nécessairement vécu ça. Puis d'arriver là puis d'avoir le privilège de s'asseoir derrière, d'apprendre. C'est pour ça que même un gars comme J.J. McCarthy, qui n'a pas joué pour les Vikings l'année passée, c'était une blessure, mais peut-être une bénédiction finalement, ça lui a permis d'attendre, d'apprendre. Et c'est haut là, le step de passer du niveau universitaire au niveau professionnel. Je pense que c'est vraiment une plus-value, puis ça paraît dans le jeu de Jordan Love. Je pense que c'est un jeune qui aurait eu en tout cas les éléments pour forcer les choses, pour essayer d'en faire plus. Mais là, je pense que le niveau de maturité lui a fait comprendre que si elle joue à l'intérieur du système de Matt LaFleur, qui est un super système, ben, il va connaître du succès et longtemps. Donc, chapeau aux Packers d'avoir été patient avec lui, comme il l'avait été avec Aaron Rodgers à l'époque. Je pense que c'est une formule gagnante.
Là, tu me fais tellement plaisir en parlant de J.J. McCarthy, qui est probablement mon nouveau coup de cœur de la saison. Puis enlève-le probablement, mais on y reviendra dans quelques instants parce que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans des 49ers au Québec. Là, sont dans tout un trou, les 49ers, présentement. Comment tu veux qu'ils sortent avec des blessures comme ça qui arrivent? C'était le cas l'année passée. C'est la même trame narrative cette saison. Ça fait mal, là. C'est le cas de le dire à San Francisco.
Ouais. Tu sais, le football, à chaque saison, moi, je dis beaucoup cette expression-là, mais c'est une guerre d'attrition. C'est pas tout le temps qui a les meilleurs joueurs, mais c'est qui a le plus grand nombre de joueurs en santé. Tu sais, regardez les Alouettes dans la Ligue canadienne, mais regardez dans la NFL... Quand tu perds tes meilleurs joueurs, c'est pas la même affaire. Là, je sais pas combien ils ont présentement de masse salariale sur la liste des blessés. Mais tu as George Kittle, qui était un de tes plus hauts salariés, qui s'est blessé à l'ischio, va être absent pendant quelques semaines. Tu as Brock Purdy, qui est ton plus haut salarié, c'est ton carrière. On s'entend, les gars, là, c'est le football, c'est le sport de carrière. Il devrait rater de 2 à 5 semaines. On parle de Brandon Ayuk, qui est une de tes armes en attaque, blessé au genou, qui n'est pas encore de retour. Le Joanne Jennings, un autre receveur qui est blessé à une épaule, on ne sait pas s'il veut jouer en fin de semaine. Il y a des limites à vous jouer avec tes substituts. Je comprends qu'on dit toujours c'est la philosophie puis le next man up, mais il y a des limites à cette approche-là. Puis le problème chez les Niners, c'est que là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va surtaxer et surcharger Christian McCaffrey. La semaine passée, il a touché au ballon 31 fois. C'est déjà un joueur qui est vulnérable, qui est prône à se blesser. Alors, il n'y a rien de bon là, qui semble à l'horizon pour les 49ers avec ces blessures-là tôt dans la saison. Tu sais, les Rams, c'est une bonne équipe. Les Seahawks vont être une bonne équipe. Ça va être difficile. Là. Tu ne peux pas trop prendre de retard tôt dans la saison. Puis on dirait que c'est ce qui s'aligne pour eux. Heureusement, je terminerai avec ça. Ils jouent contre les Saints, les Cards et les Jags. Fait que c'est pas la plus grosse opposition au cours des trois prochaines semaines. Mais n'en demeure pas moins que c'est pas une situation facile pour eux.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu dis qu'il n'y a rien de bon. S'il y a quelque chose de bon, c'est que tu affrontes les Saints en fin de semaine. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour n'importe quelle équipe qui affronte les Saints. Tu comprends?
Exact.
Pour les Saints, c'est-à-dire. Enfin.
Oui.
Mathieu. Là, passons. Et là, c'est sûr que Ben va ouvrir son micro. Il y a trois duels à surveiller en fin de semaine, selon toi, dont un rematch du Super Bowl.
Ouais, c'est assez difficile de passer à côté de celui-là. Ça, c'est un des matchs qu'on va avoir à RDS. Un match où je ferai la description avec Jasmin Leroux. Écoute, là aussi, on parle de blessures. Ben, Xavier Worthy s'est blessé chez les receveurs. Jalen Royals, qui est une recrue qu'on a repêchée chez les receveurs, pas encore joué. On a Rashee Rice qui est suspendu. Donc là aussi, là, il nous manque des armes. On n'est pas très explosif. On l'a vu l'année passée, puis on l'a vu dès la semaine 1 qu'on avait de la difficulté à être explosif. Travis Kelce n'est plus le joueur qu'il était. Puis là, on va faire face à une défense qui est très solide que celle des Eagles. Ce que j'ai hâte de voir chez les Eagles, c'est le front défensif avec Jalen Carter. Là, je m'attends à ce qu'il ne crache pas sur le carrière adverse dès le premier jeu du match, idéalement, puis qu'il dispute la rencontre.
Oui.
Puis voir comment sa présence va faire une différence dans le match. J'aime pas le match-up pour Casey. Je trouve que les Eagles ont exactement le genre de défense. Leur point faible, c'est peut-être leur demi-coin, mais présentement, les Chiefs n'ont aucune façon d'attaquer ces faiblesses-là. Puis leur faiblesse à eux, les Chiefs en attaque, c'est la ligne offensive qui est encore un travail. Là. C'est un, comme on dit en anglais, un work in progress face à un front défensif qui est redoutable. Ça risque de ressembler un peu au Super Bowl, à mon avis.
Mais on s'entend aussi, Mathieu, sur une chose. A.J. Brown et Devontae Smith vont recevoir plus de ballons que la semaine dernière.
Ben, il faut.
Oui, ouais, absolument. Puis on a été exposé contre les Chargers, la défense des Chiefs. Et je pense qu'on va, tôt dans le match, attendez-vous à voir Jalen Hurts lancer le ballon vers ces gars-là pour forcer la note un peu, pour les impliquer très tôt dans le match.
C'est ça.
Je sais qu'on a gagné, là, mais t'es d'accord avec moi, Ben? C'est pas normal là, que tu lances le ballon quand il reste 2 minutes à AJ Brown pour la première fois dans
pas
le match.
Il faut
que ça change.
Ça va changer.
Si tu m'avais dit avant le début de la saison que j'hésiterais à choisir les Broncos dans cette deuxième semaine contre les Colts, je t'aurais pas cru, mais on est là.
Ouais. Ben, je trouve que c'est un match très intéressant parce que d'abord, peut-être que justement, semaine 7-8, on n'en parlera plus des Colts. Fait que profitons de leur bonne performance la semaine dernière pour parler d'eux. 7 possessions dans le match, 7 fois où on inscrit des points. C'est rare que tu vois ça dans la NFL. Il n'y a pas un dégagement, pas une fois où on a un revirement. 7 fois où on a eu le ballon, on a inscrit des points. Ce qui nous a mené lundi dernier à parler des Dolphins et dire que leur saison est peut-être terminée. Donc, est-ce que c'est une question d'adversaire très faible? Certainement en partie. Mais les Colts ont eu l'air vraiment bons. En plus, ils ont provoqué des revirements. Ils ont l'air d'une équipe complète. Et là, on va se mesurer à une équipe qui est plus solide. Les Broncos. Les Broncos, c'est une équipe que beaucoup voient comme potentiellement la meilleure défense de la ligue. Donc, ça va être un bon défi pour cette attaque menée par Daniel Jones qui avait l'air d'une attaque du Super Bowl face aux Dolphins. Puis de l'autre côté du ballon, bien, la défense est allée chercher 2 interceptions, 3 revirements. On fait face à Bo Nix qui a lancé 2 interceptions la semaine dernière. C'est sa deuxième année. On ouvre le cahier de jeu. Est-ce qu'on ouvre trop? Est-ce qu'on décide de leur fermer un peu? J'ai hâte de voir comment Sean Payton va jouer ça chez les Broncos. C'est un affrontement qui est vraiment intéressant, à mon avis, en fin de semaine. J'ai hâte de voir qui va en sortir gagnant. Je favoriserais les Broncos juste pour l'ensemble de l'œuvre. Mais tôt dans la saison, les Colts vont impressionner semaine 1, j'ai hâte de voir comment ils confirment ça la semaine 2.
Deux équipes qui n'ont pas gagné encore, on va faire ça en une minute parce que je veux absolument qu'on se garde du temps pour parler de J.J. McCarthy. Ouais. Les Bears contre les Lions, c'est assez énigmatique là, dans les nouvelles versions de ces deux équipes-là. Qui va l'emporter?
C'est le meilleur, écoute, j'aurais pas pu dire un meilleur mot, c'est énigmatique les deux équipes. Qui seront les Lions avec le départ de leurs deux coordonnateurs? Semaine 1, ça a été très décevant, mais jouaient contre les puissants Packers, donc ils peuvent rebondir. Et deux, Ben Johnson s'amène, Caleb Williams commence le match en feu pour les Bears, puis tout s'écroule après ça, tant en attaque qu'en défense. Est-ce qu'on peut rebondir? Est-ce qu'on est capable de se défaire de cette aura-là d'équipe perdante à Chicago pour battre des rivaux de section? On a vu les Packers, les Vikings être solides semaine 1. Et si on veut rester dans la course dans le Nord National, il faut que ces équipes-là commencent à gagner. C'est un affrontement déjà très intéressant et important dans la section.
OK. Un autre rematch. Michael Penix Jr. contre J.J. McCarthy. Ça, on attendait ça. On a hâte de voir ça également en fin de semaine. Mais comment ne pas tomber sous le charme, Mathieu, de justement le dernier que j'ai nommé, J.J. McCarthy. Toutes les histoires qu'on voit qui sortent sur lui cette semaine. Lui, il est vraiment en train de charmer la planète NFL.
Ouais, complètement. Comment tu veux pas te rallier derrière un carrière comme ça? Tu sais, peu importe qui tu es, si tu joues à la position carrière, t'es un leader, t'es un meneur d'hommes. Et les gens vont te suivre, les gens vont te regarder. Cette posture-là vient avec la job. Mais il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la prestance, la personnalité pour rallier les autres. Mais parce qu'ils sont carrières, ils sont les deux pareils. Mais t'as des gars comme ça qui clairement l'ont fait. Puis c'est intéressant ce que tu dis, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai, finale nationale, il y a 2 ans, Washington contre Michigan au niveau universitaire, c'est Michael Penix contre J.J. McCarthy. McCarthy l'avait gagné. Là, on se rencontre à nouveau semaine 2. Colin, sont bons la NFL pour faire des match-ups intéressants. Et J.J. McCarthy a gagné au niveau universitaire. C'est un gagnant. Et ça, t'as ça en toi. Jalen Hurts, c'est un gagnant avec les Eagles. T'as ces gars-là qui sont capables de rallier les autres. Puis son énergie, sa fougue, sa face sur le terrain. Tu sais, quand il a lancé l'interception, retourné pour un 6, il est allé voir ses gars, il a dit « Là, c'est là que l'avalanche va commencer. » Hey, c'est ton premier départ, puis tu viens de lancer un pick 6, puis t'es assez confiant pour aller voir tes gars puis leur dire ça. T'as, comme on dit, des cojones, mon ami. Des couilles.
Des couilles solides.
Non, et c'est cool. C'est un jeune gars autour duquel ça va être le fun de suivre au cours des prochaines années.
C'est sûr. Matt, c'est beaucoup trop court. Faudrait avoir 3 segments ensemble par jour. Merci beaucoup encore de ta présence. Bon week-end de football. Et lundi, on va se reparler de ce dimanche NFL-là, puis des Alouettes également qui ont un gros match en Saskatchewan en fin de semaine. Salut, mon chum.
Sans faute. Bon week-end.
Salut.